Je suis honoré de vous rencontrer.
Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme?
Ça vous dérange pas que... J'essaie.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Leviosa Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Hébert, fondateur de BlueCoders.com, qui est une agence de recrutement spécialisée dans le digital. Avant de vous laisser découvrir cet épisode, je vous rappelle que je suis toujours preneur de vos feedbacks et de vos retours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous souhaitez voir des sujets abordés, des choses améliorées. Voilà, bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Christophe. Salut Christophe.
Salut Romain.
Comment ça va?
Écoute, ça va super bien.
Bon, tant mieux. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui avec Christophe, on va parler d'entrepreneuriat. Donc Christophe, moi ce qui m'intéresse particulièrement que les gens apprennent à connaître sur toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur, à faire ce parcours? Comme j'ai dit en introduction, tu es président et CEO, fondateur de deux boîtes qui sont BlueCoders et Cocabana. Donc moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment... t'es arrivé là.
Alors déjà j'ai envie de dire je me suis pas dit quand j'étais petit que je serais entrepreneur, mais par contre j'ai une famille qui est assez nombreuse dans laquelle j'ai eu l'habitude d'emmener mes petits frères et sœurs avec moi en disant venez on va jouer à la marchande, venez on va fabriquer un cluedo nous-mêmes, des choses comme ça quoi. Et donc du coup j'ai toujours aimé emmener les gens avec moi, j'ai toujours aimé ça m'a jamais dérangé en fait d'avoir de l'impact sur les gens. Alors, parfois on peut avoir peur de dire des choses à des gens qui leur font prendre des mauvais choix, et il y a des gens qui sont vraiment pas à l'aise avec ça. Moi c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé. Et après ce qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat, je pense c'est l'envie de réussir, mais pas au sens financier, mais c'est l'envie de faire un truc bien dont je puisse être fier, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment l'envie de me dire c'est quoi le maximum que je serais capable de faire.
Okay, et l'envie de se dépasser et la création, en plus, le processus créatif un peu qui te chauffait, quoi.
Ouais, le processus créatif, parce que ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours aimé bidouiller des trucs. En informatique, j'ai commencé l'informatique quand j'avais 10 ans, mais j'ai toujours aimé bidouiller des trucs. C'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je m'amusais à transformer un DVD en DivX, je m'amusais à graver des DVD protégés. Enfin, c'est des trucs, ça sert à rien. Mais par contre, moi, ça m'a servi en fait à passer mon collège et mon lycée, mon temps sur l'ordinateur. Donc, dans ma famille, c'était... mais Christophe, il est où? Mais il est encore devant son ordinateur.
Je m'en souviens très bien. C'est parce que je connais Christophe depuis très longtemps, et on se connaît depuis très longtemps. Et oui, c'est... J'arrivais chez toi, c'était... bon, Christophe, il est devant l'ordinateur. Oui, ok. L'ordinateur.
Normal.
Et je me souviens que t'as flingué plus d'un lecteur CD, justement... en essayant de faire des trucs chelous avec les DivX et tout ça.
Je cramais des lecteurs DVD parce que tu pouvais arbitrer sur la vitesse de gravure, en fait.
Ouais.
Donc, tu étais en x1, x2, x3, etc. Et ça montait à x32. Donc, si tu avais un logiciel qui te le permettait, mais que ton lecteur CD, ton graveur CD, il aimait pas ça, ça pouvait chauffer, ouais.
Ok. Et du coup, t'as fait ton école d'ingénieur, une prépa, on va dire un peu... c'est pas spécialement péjoratif, mais un peu un parcours classique,
super classique
dans la tech,
ouais.
et du coup quand même t'as quand même tenté le salariat.
Ouais,
ça a pas duré longtemps.
Ça a duré un an et demi.
Qu'est-ce qui t'a... parce que te connaissant et je pense que pour les personnes que t'as rencontré ça paraît évident, mais c'est très difficile de t'imaginer salarié. Je pense que il y a beaucoup de gens qui disent que on voit les personnes qui ont la fibre entrepreneuriale en elles. Je pense que tu en fais partie. Mais du coup, qu'est-ce que tu t'es dit, ça a donné quoi cette expérience de se lancer dans le salariat et de se dire au bout d'un moment non en fait.
J'ai envie de dire en fait quand j'étais en études, j'avais hâte de travailler. C'est pas que j'avais hâte d'être au travail tout ça, mais c'est que j'avais l'impression que il y avait un niveau de compétence au-dessus qu'on pouvait atteindre dans le monde du travail, auquel on n'avait pas forcément accès en tant qu'étudiant. Et en fait, j'étais hyper déçu de ça. C'est-à-dire, je me suis vraiment rendu compte que dans le monde du travail, les gens ne sont pas plus doués, ils ne font pas des trucs plus incroyables que ce qu'on peut faire à deux copains un soir, à avoir des bonnes idées ou à essayer de bidouiller un programme ou un truc comme ça. Et donc ça m'a vraiment frappé. Et le pire, c'est que quand on rentre dans ces entreprises-là, si on a envie de faire des grandes choses, qu'on sait qu'on est capable de plus, il y a toujours un espèce de plafond de verre de dire bah « Ben non, toi, tu es junior, rien de la grille salariale. Tu vois, dans 3 ans, tu seras junior 2. » D'accord ? Les juniors 5, dans 15 ans, te permettront peut-être de devenir junior confirmé. Et ça, moi, c'était horrible. Parce que je me disais, mais j'ai envie de réussir, je suis capable de plein de choses. J'en avais envie de montrer de quoi j'étais capable. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le monde professionnel, en fait, il n'y a pas beaucoup de place, en fait, pour les gens qui se sentent capables de plus. Et moi, j'ai jamais eu envie d'être accepté dans une entreprise et de faire mon trou là. Ou en tout cas, si j'avais eu les moyens d'être reconnu peut-être à la hauteur de ce que je pensais pouvoir apporter, j'aurais peut-être aimé faire mon trou. Mais en fait, à chaque fois, j'ai eu l'impression d'arriver, d'en avoir envie, de tout faire. Et puis en fait, ça n'a pas d'impact, quoi. On peut être un très bon junior, quoi. Mais en fait, il n'y a personne qui va enlever ce plafond de verre et dire « Non, mais toi, tu es capable de plus. Donc tu vas venir avec nous. On a un club. » Et en fait, voilà, ce sentiment d'être plafonné, moi, c'est vraiment quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais travailler pour des gens alors que je sens bien que si je continue à creuser, je pourrais me mettre en capacité de leur expliquer ce qu'ils doivent faire.
Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je l'ai ressenti aussi à plusieurs reprises. Je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. C'est cette impression déjà que tes compétences en France sont limitées par ton âge. Ce qui est quand même quelque chose de complètement absurde. Il y a des gens de 50 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même boîte, ils n'ont jamais rien fait pour améliorer les choses dans la boîte. Et tu as des gens qui viennent d'arriver, qui sont là depuis 3 mois, qui ont des idées, comme tu le dis, qui pourraient permettre de faire passer des crans sur des choses. Mais on ne les écoute pas parce qu'ils sont trop jeunes. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta boîte et qu'est-ce que tu recommanderais de faire justement pour éviter que les jeunes, quand ils arrivent dans une entreprise, ils se sentent comme ça enfermés? Parce que après on nous parle de, oui, vous comprenez, il y a un gap avec les millennials. Déjà, on avait le même gap avec nous, avec la génération 90.
Ouais.
Qu'est-ce que tu proposes?
Bah, déjà, il faut être conscient, et ça doit donner de l'assurance aux nouvelles générations, c'est que quand on regarde bien comment ça se passe, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, globalement, ils démontent celle d'avant. Et donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, on a une génération de start-upers qui vont créer des boîtes. Et avec 300 personnes, ils vont être aussi concurrentiels que des dinosaures qui existent depuis 100 ans et qui sont 6000. Okay. Voilà. Et donc, il y a vraiment une capacité d'une génération parce qu'elle maîtrise mieux les outils de son temps. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on a 25-30 ans, on se rend compte que si on travaille, par exemple, dans le digital, l'essentiel des consommateurs du digital sont plus jeunes que soi. Donc, ça veut bien dire que on est probablement les plus vieux à être capables de comprendre ce dont les jeunes ont besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les consommateurs, les jeunes, deviennent des consommateurs de digital, de plein de choses, et que, en fait, c'est les jeunes du monde du travail qui sont capables de comprendre ce que vont attendre ces nouveaux consommateurs. Ouais. Alors que celui qui a 20 ans de plus, il est trop déconnecté. Ou sinon, il a des enfants, tout ça. Mais il ne va pas réussir à vraiment sentir là où va le monde. Parce que c'est un nouveau monde qui se crée. Et donc, la meilleure façon de le comprendre, bah, c'est d'en venir ou d'en être très proche.
Après, juste t'interromps 2 secondes, mais là où je vais pas être d'accord avec toi, c'est que je pense que ça dépend aussi. On va pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi j'ai connu des gens de 50 ans, 60 ans, et tout, qui étaient très, très, très au fait de ce qui se faisait aujourd'hui. Et ce qui se fait aujourd'hui, qui se maintiennent leurs connaissances à jour, et je pense que la difficulté, elle est là, en fait. Je pense que c'est la capacité d'une personne à se remettre en question, à prendre de ses erreurs, et aller chercher toujours plus loin pour apprendre. Ce qui, aujourd'hui, est de plus en plus dur, puisqu'on est dans une génération, clairement, où il n'y a jamais eu autant d'informations qui circulent que dans notre ère, et on est obligé de se maintenir à jour en étant H24 focalisé là-dessus, ce qui des fois nous cause des troubles psychologiques, on va dire, surménage pas possible. Mais du coup, ouais, il y a les deux côtés. Je suis d'accord avec toi que, en gros, la nouvelle génération va avoir plus de simplicité sur certaines choses. Maintenant, je pense que, encore une fois, c'est un équilibre. Il y a tout chez tout le monde, quoi. J'ai vu des jeunes qui savaient pas faire un copier-coller, quoi.
Ouais, il y a de tout. Après, ce que je vois quand même dans les usages, c'est que, bon, à la fois, les gens avant apprenaient les choses par cœur, savaient faire, et nous, aujourd'hui, on considère qu'on n'a pas besoin de le faire parce que je peux retrouver des explications rapidement sur Internet, j'ai pas besoin de mémoriser des dates parce que Wikipédia est une partie de mon cerveau.
C'est vrai.
Et voilà. Après, moi, je trouve ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est ce que tu es en train de dire, c'est de dire... Parmi ceux des générations d'avant, ceux qui sont encore dans le game actuel, c'est ceux qui avaient l'esprit le plus ouvert et qui n'ont pas cessé de chercher à comprendre. Et donc en fait, voilà. Et je pense en fait que les nouvelles générations ont encore plus ce réflexe d'apprendre à apprendre. Parce que je pense que l'ancienne génération, c'est quand même une génération qui a grandi dans les 30 glorieuses, etc. Alors, peut-être pas ceux qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, mais ceux qui sont au-dessus, donc ceux qui ont créé le monde d'entreprise dans lequel nous, on a commencé à évoluer, ils ont créé des entreprises qui étaient dans un monde qui n'était pas numérique. Et donc, nous, on arrive avec, dans un monde où c'est le bordel total, il y a des flux migratoires incroyables, il y a une crise économique partout, on se rend compte que les pays se font la guerre entre eux, etc. Enfin, on vit dans un monde où dès le plus jeune âge, on peut être assez poussé au cynisme, quand même. Et je pense que, face à ce cynisme, et pas face aux défis écologiques, démographiques, etc., je pense que les jeunes sont poussés, en fait, à se dire, de toute façon, je pourrais m'en remettre qu'à moi-même.
Ouais.
Et moi, ça, c'est un truc que je remarque de plus en plus quand je parle avec des gens qui sont même très jeunes, c'est à quel point ils se disent, les études, tout ça, bon, bah, oui, il faut s'en sortir, mais en tout cas, je compte surtout sur moi et sur ma capacité... à faire une queue de poisson de dernier moment pour réussir à m'en sortir. C'est-à-dire que les gens ont vraiment confiance dans leur capacité à s'adapter. Et je crois que ce qui est vraiment nouveau dans cette génération, c'est ça. Les gens ont confiance dans leur capacité à s'adapter. Et donc, effectivement, si on regarde la génération précédente, peut-être qu'ils avaient moins confiance. Les gens essayaient de construire des personnalités plutôt que de vraiment vivre leur vie comme ils l'entendaient. Et donc, il y a... Pour moi, cette fracture qui s'est créée, elle est super positive.
Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire que ces jeunes, je pense que c'est surtout... Parce que je sais pas s'ils ont confiance en eux, tu vois, encore. Enfin, sûrement qu'il y en a. Moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très sur deux, mais je pense qu'il y en a sur toutes les générations. Je pense qu'à mon avis, quand on regarde nous au même âge qu'eux, à mon avis, on devait avoir l'air de personnes assez sûres de nous. Et je pense que même, enfin, c'est un reproche qu'on m'a souvent fait dans mon travail, hein, je vais pas mentir. C'est quand j'étais jeune et que j'étais salarié et qu'on me disait, ouais, t'es un peu trop sûr de toi, attends un peu, calme-toi, machin, vas-y mollo, fais les choses telles qu'on les a mis.
Tu vois pas que t'es junior 1.
Voilà, exactement, hein, c'est exactement ça. Tu vois pas que t'es junior 1, calme-toi, écoute papa. Mais en même temps, je pense que c'est surtout cette capacité à être critique aujourd'hui, parce que comme tu le dis justement, on a Wikipédia dans notre smartphone. Ce qui en même temps engendre d'autres comportements parce que les informations ne sont pas toujours bonnes sur Internet, mais qui fait que du coup il y a vachement un esprit critique qui s'est développé, qui je pense est une très bonne chose. Maintenant, un truc que j'ai remarqué chez Blue Coders, c'est que tu t'hésites pas à faire remarquer aussi, à apprendre de ses erreurs à tes employés. Tu pousses à ça. Les quelques fois que je suis venu ici, hein, je me suis baladé un peu, j'ai assisté à des trucs avec toi. Et en gros, pourquoi est-ce que tu pousses à ça?
Bah déjà, nous, chez Blue Coders, la moyenne d'âge, c'est moins de 25 ans. Et on a moins de 25 ans, et on est en train de se battre contre des boîtes où la moyenne d'âge... Enfin, c'est carrément des générations carrément au-dessus de nous, donc 15, 20 ans de plus que nous. 10 ans peut-être pour les plus récentes, mais... Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui est très jeune... qui est dans une totale inexpérience, réussit à concurrencer des mastodontes du secteur, je pense que c'est l'humilité, en fait. C'est-à-dire qu'on a vite fait de faire trois tours de magie et de se dire « Oh, je suis un super magicien ». Mais je pense que celui qui, après ce 3-4 tours, dit « Bon, je vais essayer de comprendre où est-ce que j'ai chié, quels sont les tours que je connais pas encore et comment je peux être un bien meilleur magicien », je pense que lui devient un très très bon magicien. Mm-hmm. Et Et comme nous, on a très envie de faire de la magie ici, l'idée, c'est de se dire, bah, les gars, en fait, en permanence, on va être dans une amélioration continue. Donc on va faire des choses, on va réfléchir à ce qu'on va faire, et quand on les aura fait, on va se mettre nos baffes. Et donc ici, l'expression « se mettre nos baffes », c'est quelque chose que les gens comprennent. Et ici, il y a deux expressions qu'on utilise beaucoup, c'est « se prendre nos baffes » et « se rendre capable ».
Ok.
Donc voilà, « se rendre capable », c'est « tiens, qu'est-ce qui est important dans le fait de faire du business ? C'est pas tant en faire, c'est être capable d'en faire et se rendre capable d'en faire plus. Okay. » Et pour ça, on a toujours besoin, comme si un peu on montait l'escalier de la connaissance. Et le problème, c'est qu'on peut prendre de la connaissance à partir de l'expérience, mais disons que tant que ça marche, on s'en rend pas compte. C'est quand ça marche pas qu'on se rend compte et qu'on apprend vraiment quelque chose. Et donc c'est hyper important en fait d'être dans la recherche de ses erreurs et dans l'acceptation de ses erreurs, parce que c'est ça qui permet d'évoluer très très vite. Et donc je pense qu'une entreprise peut très bien arrêter au bout d'un moment et s'auto-lécher les pieds en disant ah, c'est incroyable ce qu'on fait, etc. Regardez ce qu'on a déjà fait. Et mais je pense que la même entreprise qui se calme et qui se dit « Attendez, on est des enfants, en fait. »
C'est la fameuse stagnation et l'humilité. Ouais.
Voilà. Et je pense que c'est hyper important de toujours se remettre en question et se dire « Ouais, si je crois que j'ai pas fait d'erreur, c'est juste que j'ai oublié de la regarder. » Donc, on va prendre le temps. Et je pense que quand on prend le temps de regarder où étaient les erreurs, et là, on arrive à la fin de l'année. Donc, nous, ça va être le moment de faire des feedbacks. Donc, ce qu'on a organisé, c'est chaque équipe fait un feedback avec le manager, et tout le monde dit là où j'ai chié et tout. Et ensuite, ça remonte, et à la fin, le premier jour de l'année, donc ça va être bientôt, là, en janvier, je vais faire une presse, et donc je vais remonter toutes les difficultés, et à partir de ça, on va dresser la roadmap des années suivantes. Donc bien sûr, on est sur un projet, là, de toute façon, jusqu'à fin 2021, chez Blue Coders, parce qu'on avance par itération, donc on visualise vraiment là où on veut aller, et là, on est sur un cap mi-2021, fin 2021, mais pour dans cette avancée, on s'arrête, on se met au baf, on réfléchit, on fait, on s'arrête, on se met au baf, on réfléchit, on fait.
C'est un peu le fonctionnement de la méthode, on va dire, Scrum, en agilité.
Scrum, Lean, la route d'Emning, de l'amélioration continue de manière générale.
Ouais. Non, très bien. Très
c'est, dans le, c'est à la fin le check et le act. Nous, on appelle ça se donner nos baffes.
Pas mal, pas mal. On retient.
C'est pour ça, les gens, tu verras, on les joue un peu rouges. Ils se mettent les baffes, ils se mettent les baffes tout seuls.
Si, si, c'est une blague.
Et moi-même, j'ai les joues très rouges.
Du coup, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, qui va peut-être te faire sourire un peu, mais tu disais que la moyenne d'âge, c'est 25 ans, moins de 25 ans, chez Blue Coders.
Ouais.
T'as plus de 30 ans. Comment
30 ans et demi.
comment tu t'assures que la communication continue à passer et comment tu t'assures toi d'être toujours en phase avec cette génération-là, surtout que tu es dans ce rôle un peu d'entrepreneur, et ça va être la deuxième partie de ma question en quelque sorte, c'est que quand on est entrepreneur, des fois on a un peu tendance à s'enfermer un peu dans une espèce de tour d'ivoire un peu où on se rend plus compte un peu de ce qui se passe en dessous. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce terme en dessous. On est bien d'accord, ce qui se passe autour de nous plutôt. Et du coup, enfin voilà, comment tu fais pour maintenir au contact avec la génération d'employés qui est plus jeune, et comment toi, t'arrives à te maintenir à jour pour aller toujours plus loin?
Alors déjà, moi, je crois que j'ai pas eu le temps en fait de m'habituer à être un patron. C'est-à-dire que je me sens pas être un patron, d'accord ? Bon, c'est effectivement mon travail, mais en général, quand je vois la distance que les gens mettent avec moi, surtout ceux qui commencent et qui me connaissent pas encore, je me prends souvent la baffe du rôle, quoi. Et ouais. Pour moi, c'était assez dur parce que, en vrai, moi, j'arrive, je suis très content d'avoir fait Blue Coders et tout, mais c'est vrai que le matin, souvent, j'arrive, je vois les gens bosser, je me dis « putain, j'aimerais trop être dev dans cette team », je me dis « putain, j'aimerais trop être... biz dev dans cette équipe. J'aimerais trop faire du market ici, ça a l'air trop cool. » Et en fait, je me retrouve à être le boss du truc, et ça crée forcément un écart. Donc, c'est pas tant... on s'y met pas soi-même, en fait. C'est les autres qui... Enfin, ou peut-être c'est les deux, je veux pas... Mais moi, pour moi, j'ai vraiment le sentiment de me prendre la baffe du rôle, et même en ce moment-là, ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai créé Blue Coders. Et il y a des jours, je me dis, putain, c'est... Ouais, ok, c'est... du coup, c'est moi le boss aussi, d'accord.
Okay. Et, le regard dans le bas et les yeux vides.
Ouais, et après, ce qui est bien, c'est que... Bon, il y a des jours, je reçois des gens et tout, donc je me mets une petite chemise, etc. Et puis, mais j'ai mis du temps à le faire, parce qu'au début, je recevais des gens dans l'entreprise. Ils ouvraient la porte en mode « oui, j'ai un rendez-vous » et tout. Et il y a des personnes « bonjour, je viens parler, vous êtes le stagiaire ? Je viens voir votre patron. » Non, en fait, c'est moi. pardon. Et ouais, donc... Donc on se fait pousser dans le rôle, ou sinon on n'arrive pas à se prendre au sérieux dans ce rôle, et il y a besoin à un moment donné de se prendre au sérieux. Parce qu'une entreprise, pour que ça tourne, bah, il faut quand même qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des valeurs.
Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que en gros ce que tu dis, et je le vois tout à fait, c'est-à-dire que t'es jeune, t'arrives dans une entreprise, t'as cette espèce de respect, tu te dis bon, c'est le patron, c'est lui qui me paye, voilà, faut que je sois... carré et tout, que tout se passe bien, mais enfin, avoir des règles, avoir un respect et que les choses avancent, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir cette espèce de proximité, pardon. Mais du coup, c'est vrai que je comprends pourquoi tu peux te dire ouais, je suis mis un peu de côté et j'essaye de faire en sorte d'être proche de mes employés, mais en même temps, je peux pas trop.
Ouais, t'es bloqué en fait. C'était bloqué parce que. Mais puis en plus, tu sais, t'es avec tes collègues, tu réfléchis mal, tu sors une connerie, c'est une mauvaise blague. C'est pas très grave. Mais t'es le patron. T'as pas le droit à cette erreur, tu vois. Parce que t'es le patron, tu fais une mauvaise blague sur quelqu'un, peut-être il va croire que tu le prends en grippe ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Faut être hyper prudent en fait. Faut être hyper prudent. Enfin, tu vois, moi j'ai déjà vu dans des entreprises des patrons qui. Enfin, je pense qu'il faut incarner le rôle aussi, en fait. Et les gens, je pense que quand ils rejoignent une entreprise, ils rejoignent un projet, ils rejoignent un fondateur. Et quand ils se barrent aussi. Parce que ça leur va plus, peut-être, tu vois. Et donc, il y a vraiment une grosse responsabilité. Et il faut, je pense, incarner le rôle. Et c'est pas facile. Tu vois, l'autre fois, je rentrais d'une semaine de vacances là, à Toussaint. Et le premier jour où je suis rentré, j'ai fait des ponts avec tout le monde, etc. Mais je suis rentré chez moi, j'étais sonné.
Ouais.
J'étais sonné. J'étais sonné parce que la journée était trop intense, trop de trucs, trop d'écarts, trop de rôles du patron. Et je suis rentré chez moi le soir, je me suis dit, mais en fait, ah ouais, c'est ça être patron, en fait. Du coup, c'est ça mon travail. J'ai créé une boîte que j'aimais bien toucher un peu à tout, faire du dev, faire du design, faire du market, faire du business. C'est pour ça aussi que je me suis retrouvé à lancer le truc tout seul. Et en fait, je me rends compte que bah, au quotidien, du coup, maintenant, c'est de la finance, c'est de la gestion de projet, c'est du cadrage, c'est du management. Et c'est d'autres compétences. Après, aussi, l'avantage, c'est que moi, je décidais d'essayer de créer Blue Coders sans lever des fonds. Mmh. Parce que j'avais envie d'apprendre. Et le nombre d'entreprises, nous, on accompagne à peu près entre 300 et 400 startups de la tech aujourd'hui. Et le nombre d'entrepreneurs à qui je parle, qui me disent, mais en fait, avec ces levées de fonds, etc., mes investisseurs m'obligent à recruter des mecs qui savent faire à ma place, j'ai pas le temps d'apprendre.
Oui,
et parce que c'est la machine après, on a créé une machine et donc il faut être à la hauteur.
Moi je me permets de t'interrompre, excuse-moi, mais je suis très très tatillon sur ce sujet, quoi. En gros, c'est pas la première fois que j'en parle dans le podcast. Cette mentalité du je veux absolument lever des fonds, ça m'agace. C'est une mode, je trouve, qui n'est pas bonne. C'est le mythe de la licorne. Et c'est un peu, par rapport à ce que tu disais au tout début, ces jeunes qui, parfois, arrivent à faire mieux que des entreprises qui existent depuis un certain temps. Tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. C'est ouais. Quelque chose de nouveau qui remplace quelque chose d'ancien. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas faire les choses à n'importe quel prix, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et il y en a beaucoup trop qui font ça n'importe comment, parce que leur délire, c'est juste d'être connu, de lever des fonds, de revendre leur boîte en partant avec 2-3 millions, et puis voilà, quoi. Et leur job, c'est ça, c'est faire du pognon, ils n'ont aucune vision, ils n'ont pas envie d'améliorer les choses, ils n'ont pas envie de faire en sorte que les choses soient bien, et je trouve que ce mythe de la licorne et justement de la levée de fonds obligatoire, ça contribue un peu trop à ce truc-là, et je trouve ça dommage, quoi. Enfin bon, c'était une petite parenthèse, mais...
À fond, non mais c'est... Moi, je... Comment dire ? je pense que ça dépend du projet d'entreprise, mais je pense que tu as des gens qui lèvent des fonds, etc., qui ne se rendent pas forcément compte. Et moi, je forme mes commerciaux, puisque nos clients, c'est d'autres startups, et j'explique bah voilà, pourquoi une startup a besoin absolument d'être très pressée pour réussir à recruter des développeurs, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une boîte qui lève des fonds est une boîte qui est en train d'être vendue. Mmh. Voilà. Donc, il y a différentes étapes. Au début, il y a « tiens, on regarde », ça s'appelle une seed, voilà, un amorçage. Puis après, c'est des séries. Puis après, voilà, le but, c'est l'investisseur à chaque tour, ou les investisseurs à chaque tour, ça peut changer. Run du capital. Bien sûr, ça vaut toujours plus. Donc, même si les fondateurs se trouvent avec une petite part, bah, ça a quand même de la valeur. Mais par contre, cette valeur, elle peut être aussi diminuée, dans le sens où si je suis entrepreneur et je dis « tiens, je fais une levée de fonds de 1 million », en général, quand je fais une levée de fonds de 1 million, les investisseurs cherchent à rentrer entre 20 et 30%. Donc, c'est-à-dire que si je fais une levée de fonds de 1 million, disons que j'ai vendu 25% par augmentation de capital, ça veut dire que je suis une entreprise qui est valorisée à 4 millions. Mmh. Et pour valoriser mon entreprise à 4 millions lors de la levée de fonds, on me file de la thune pour que je fasse un projet. Et donc, j'établis un business plan, souvent sur 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et des fois c'est très court, des fois c'est plus long.
Et souvent ne veut absolument rien dire en plus.
Et la difficulté qu'ont les entrepreneurs, c'est qu'en cherchant le maximum de fonds, en cherchant le maximum de valorisation, il y a toujours dans les term sheets des investisseurs de dire « si jamais tu n'as pas atteint ton business plan ». Ça veut bien dire que moi qui ai investi sur la base de ton business plan, pour moins 1 million, plutôt que d'avoir 25%, j'aurais dû avoir plus. Donc dans la term sheet, il est inscrit que tu dois me créer des actions nouvelles pour moi pour augmenter ma participation dans l'entreprise. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est toutes ces grosses valos qu'on voit, etc., c'est du pari.
Ouais, d'accord.
Et c'est important de le faire, parce que je vois, il y a même beaucoup de développeurs qui reçoivent des stock options, tout ça, et les valeurs qui sont données, mais sont démentielles, et tout le monde surcote son entreprise. J'ai entendu des trucs dernièrement, mais c'était les mecs considéraient qu'ils avaient multiplié leur valo par 3 en 6 mois.
Ouais. Puis en général, quand on propose des stock options, ça me fait marrer, c'est que la plupart du temps, les gens s'assoient dessus. Le jour où ils doivent partir de la boîte parce que ça se débloque au bout d'un certain temps, etc. Ouais,
bah c'est bien ficelé pour... De toute façon, c'est du rêve, donc rêve avec nous. Mais en gros, j'ai un ticket de loterie, j'espère que je peux gagner, j'ai quand même une chance sur 14 millions. Tiens, tu veux un morceau ?
C'est ça. Ah ouais, c'est exactement ça.
Tu vois, il y a marqué 14 millions dessus. C'est un vrai ticket. Allez, prends un morceau.
Bien sûr. Et accepte de faire des horaires insupportables et d'avoir un salaire plus bas parce que... potentiellement dans le futur tu auras plus.
Ouais, après nous quand on accompagne des développeurs, jamais on diminue le salaire pour avoir des stocks, c'est que du plus, hyper important. Et donc souvent il faut mettre les choses bien au clair avec les entreprises, mais on n'a pas de mal à le faire.
Ouais, très bien. Bah, c'est pour ça aussi je pense qu'il y a de plus en plus de développeurs qui se font aussi accompagner par des entreprises comme Blue Coders, parce que au bout d'un moment les mecs n'ont pas envie de se focaliser là-dessus, n'ont pas envie d'avoir à faire ce tri qui devient de plus en plus difficile à faire. Démêler le vrai du faux. Alors aussi, c'est des fois le problème, c'est qu'il y a peut-être des cabinets qui sont un peu moins scrupuleux que vous, qui vont proposer absolument des clients à des développeurs qui vont en fait pas du tout convenir. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience là-dessus dans le passé. On m'avait survendu une boîte, et puis quand j'étais arrivé là-dedans, c'était un enfer pas possible, quoi. C'était la bonne bande de copains, mais en réalité, t'avais... On te fait des réunions avec ta manager parce que je comprends pas pourquoi tu viens passer aux soirées, on fait des soirées tous les soirs, t'es venu qu'une ou deux fois.
Il y a pas un film qui s'appelle Le Cercle. Ouais, c'est un peu badant à la fin, ça, en mode c'est génial, tout est génial. Bon, après moi ce que je vois aussi, c'est énormément de super projets, des mecs qui vraiment donnent tout, qui incluent à fond leur équipe avec eux. Et après, peut-être qu'ils se font rattraper au bout d'un moment par la réalité des choses. Et comme on disait tout à l'heure, la nécessité d'incarner le rôle du patron, etc., qui se prennent une grosse pression par les investisseurs, qui sont même conscients de leur erreur de levée de fonds. Mais c'est très brillant, les levées de fonds, donc on croit que c'est génial. Mmh. Mais bon, moi, c'est vrai, on parlait d'entrepreneuriat au début et pourquoi, etc. Moi, je sais que si j'ai entrepris, c'est parce que j'adore discuter, j'adore m'ouvrir l'esprit, mais j'aime pas appliquer une consigne que je comprends pas. Et donc, je vois pas l'intérêt d'entreprendre si c'est pour avoir un boss au-dessus de soi, en fait.
C'est ça.
Donc, l'entrepreneuriat, oui. En levée de fonds, oui, pourquoi pas. Et je pense que tout ça, ça va dépendre de l'investisseur qui arrive, quoi. Est-ce que j'ai une super relation avec eux ? Est-ce que je sens qu'ils s'intéressent à mon projet ? Ou est-ce que globalement, attendez, il faut qu'on investisse dans 3 boîtes à l'année, donc fais voir ton projet déjà. Ouais. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça, parce qu'on le voit bien avec les accélérateurs, les incubateurs, c'est l'usine à l'investissement. Donc c'est, à la fois c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a du pognon qui va dans l'économie, à la fin ça paye des gens, les gens avancent dans leur vie grâce à cet argent-là, donc c'est une très bonne chose. Par contre, on parle pour l'entrepreneur qui se pose la question, attention, je lève des fonds, je suis en train de vendre tout de suite. Exactement. Alors, est-ce que je fais une entreprise pour la vendre ? Voilà. C'est-à-dire qu'au début, l'investisseur pose un pied sur la table, 2 pieds, 3 pieds. Puis au bout d'un moment, et on le voit par exemple même dans des grosses boîtes avec des parcours incroyables, le mec de Uber, il se fait sortir. Parce que en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui sont des fondateurs, qui sont des créateurs, qui sont les innovateurs du truc. Mais sauf qu'au d'un moment, une boîte, à partir de 15 personnes, il faut commencer à être un manager. Et à partir d'une 30-40 personnes, il faut être un financier, en fait. Il faut toujours être un manager, mais il faut être un manager de manager et un financier. Et ça met une petite baffe. Parce que finalement, on se retrouve à être un financier. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve à vendre des actions, des trucs comme ça, sur des marchés, tout ça. Mais on se retrouve à devoir développer une entreprise. Et pour développer une entreprise, il faut être bon en finance. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que...
Tu ne crois pas que juste bien s'accompagner, ça suffit ?
Moi, je dis toujours, des bons conseils, ça vaut beaucoup plus cher que beaucoup d'argent. J'ai beaucoup plus avancé avec des bons conseils. Mais le problème quand on entreprend, c'est que tout le monde veut bien donner des conseils. Tout le monde vend très bien sa capacité à donner des conseils. Mais tout est payant et on n'est jamais sûr de ce qu'on a derrière.
Ouais, je suis bien d'accord. C'est toutes les difficultés.
Mais tout le monde veut bien vous aider quand vous êtes entrepreneur. Tout le monde. Par contre, tout est payant. Voilà. Donc je pense qu'il faut réfléchir avant d'entreprendre et avant de se lancer dans ces processus-là, de dire pourquoi je le fais. Mais après, ce que je vois, c'est que ceux qui lèvent des fonds, celui qui a déjà créé une entreprise, qui sait déjà qu'il en est capable, qui a déjà monté une entreprise à 50, 60, 100 personnes, qui l'a vendue, qui a peut-être un peu de cash, qui a pris du temps dans sa vie, le jour où il réentreprend, est-ce qu'il a envie de repartir à 1, 2, 3 personnes, puis 4, puis 5 ? En fait, peut-être que s'il avait commencé par lever tout de suite, il va se dire « Non, mais j'ai envie de faire une boîte dans laquelle où j'ai le temps d'apprendre ce que je dois apprendre. » Ou peut-être que celui qui a déjà entreprise dit « Bon, c'est bon, moi j'ai compris maintenant. Je sais que je gère une boîte de 50, je vais pas attendre 10 ans que la boîte monte à 50. Donc je vais lever des fonds, je vais aller vite. » Et là, le mec est clair avec lui-même. Et là, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir conscience que quand on entreprend, la façon dont on va développer l'entreprise, faire rentrer de l'argent dans l'entreprise, enchaîne l'entreprise à quelque chose. « Je suis tout seul, je facture, voilà. » Je ne fais pas de crédit à la banque, tout ça. Demain, je ferme la boutique, personne ne va me chercher. Par contre, on commence à faire du crédit à la banque, avoir des salariés ou avoir des investisseurs. Là, je ne suis plus tout seul, j'ai des responsabilités, j'ai pris des engagements dans le futur. Donc, je ne peux pas m'échapper. Et donc là, l'entrepreneur ne fait plus ce qu'il veut. Okay. C'est les responsabilités du dirigeant.
Ouais, Ça donne vraiment matière à réflexion, tout ça, parce que c'est une partie qui est hyper sensible. Malheureusement, on ne peut pas empêcher non plus les gens de rêver, ce que je comprends tout à fait. Ça donne envie. Moi, le premier, quand j'étais focalisé sur le salariat, je regardais les boîtes qui faisaient des levées de fonds, ça me donnait envie d'aller bosser pour eux, etc., etc. Et comme tu le dis, il y a de tout dans les startups, parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à me laisser emporter sur la critique de certains modèles. Mais évidemment que moi je trouve que travailler en startup c'est fascinant, ça te laisse une marge de manœuvre phénoménale en général pour faire plus de choses que ce que tu ferais dans une boîte traditionnelle où tu es cantonné à ton petit rôle et t'en sors pas surtout parce que ça va déranger ton voisin. Et voilà, il y a des pour et des contre, comme dans tout. Ça se pèse, ça se réfléchit.
Là, j'avais un regard plus tourné autour de l'entrepreneur. Mmh. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, demain, je suis salarié, je vais tout de suite en start-up.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup moins le plafond de verre. Ou disons que l'avantage d'une start-up, c'est qu'elle connaît une croissance qui est tellement forte que normalement, le plafond de verre se lève avec moi. Après, il y a deux types de start-up. Il y a la start-up qui grossit et qui veut faire confiance aux personnes et qui va se mettre à les former. Et tu as la start-up qui veut aller encore plus vite que ça et en fait, qui va se mettre à remplacer tout le monde au fur et à mesure qu'elle a les moyens de le faire.
Ouais.
Et donc, c'est comme tout... On ne peut pas dire les startups, ils fonctionnent comme ça, les PME, c'est comme ça, les grands groupes, c'est comme ça, les cabinets de conseil, c'est comme ça. Il faut toujours aller regarder entre les lignes. Et il y a des très, très beaux projets. Et aujourd'hui, moi, ça fait 4-5 ans que je suis dans le web français. Aujourd'hui, je vois les projets qui sortent, je vois l'énergie que les mecs ils ont à faire leurs projets. Il y a des trucs incroyables qui sortent. Il y a vraiment des boîtes... ou qui sont avec une mentalité hyper humaine, dans l'humilité, dans la bienveillance. Et ça fait plaisir. Et moi, c'est exactement ces boîtes-là. Nous, on le voit quand on travaille en partenariat avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, ça va être tout de suite une relation client-fournisseur. Tu m'as pas filé ici, nanana. Puis il y a des gens, c'est bon, comment on peut s'entraider? On est des partenaires, win-win. Et donc, c'est important, je pense. Et puis, on est quand même là pour s'amuser au travail. Donc, je pense que c'est important, même quand on développe des partenariats, de se dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est travailler avec des gens pour qui j'ai envie de travailler.
Prendre du plaisir à bosser avec eux.
Voilà. Et donc, dans le choix des partenaires, de ses fournisseurs, de ses clients, je pense que c'est important aussi de se dire, est-ce que j'ai envie de travailler pour eux? Parce qu'on a vite fait de... Enfin, je crois que les valeurs dans le business, c'est de plus en plus important.
Ouais, je suis bien d'accord. C'est pour ça que... Bah, moi, c'est là-dessus que je focalise ma activité, mais... Et que j'en sais ça, parce que clairement, une des valeurs qui est montante, c'est déjà l'éthique dans le business, c'est le bien-être de tes salariés. Enfin, moi, je suis toujours choqué qu'il y ait des entrepreneurs aujourd'hui qui ne comprennent pas que leurs salariés, c'est leur poule aux œufs d'or. Et que bah, si t'es pas con, la poule aux œufs d'or, bah, au lieu de l'éventrer pour voir s'il y a un truc, un trésor dans les entrailles, tu vas en prendre soin et tu vas faire en sorte de bien prendre l'œuf qu'elle te sort tous les jours tranquillement et tu vas la dorloter pour qu'elle vive le plus longtemps possible, tu vois.
Ouais.
C'est... ouais. Vous êtes combien aujourd'hui chez Blue Coders?
Là, on va être 40, là.
40.
Okay. Je crois qu'on est 39, donc la prochaine personne qui arrive sera le 40e.
Okay. Tu vas arriver au fameux palier des 50. Bientôt.
Ouais, je vais y arriver. Après, nous... En fait, moi, en 2018, on est monté presque à 40.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien de recruter des gens et on sait bien le faire chez Blue Coders, recruter des gens. Puis en plus, comme on a tendance à être assez enthousiaste, dès qu'on voit quelqu'un qui a du potentiel et tout, on a envie de travailler avec lui. Et ce qui s'est produit, c'est que j'avais mal anticipé le fait que bah, pour faire travailler des gens, il faut avoir le niveau d'encadrement et il faut savoir où est-ce qu'ils arrivent, sur qui on les greffe. Parce que ah, c'est une flat start-up, il n'y a pas de chef et tout. Ok, mais qui cadre l'action? Alors, qui est chargé de ça? Et puis, il y a un mec qui va pas bien, qui est chargé d'aller le voir. Chacun pour soi, alors. Et donc, voilà, je pense que c'est important quand on recrute des gens, de savoir où est-ce qu'ils vont, comment ils sont encadrés. Il faut prendre le niveau en management. On peut pas avoir plein de personnes et penser que chacun va trouver quoi faire. Enfin, on peut, mais le travail efficace de l'entreprise est faible. Et même si, quand on arrive en start-up, on est toujours content de se dire « Ouais, il n'y a pas trop de règles, il n'y a pas trop de process, etc. » ça peut être aussi très énergivore et les gens, parce que quand on ne sait pas vraiment si on a le droit de faire les choses, bah oui, parce que je sais pas, du coup je dois demander l'autorisation pour tout, puisque j'ai le droit de tout faire, mais à la fois il ne faudrait pas que je fasse une connerie. Donc ça, c'est un peu le revers de la start-up. Ouais, pas de règle, tu fais ce que tu veux.
Ouais,
ouais. Et en fait, je crois que c'est mieux aussi d'avoir des gens qui sont là pour cadrer l'action, et en fait, c'est le cadre qui est donné à l'action, il est bien précis, et les gens à l'intérieur de ce cadre vont savoir exactement là où ils savent qu'ils peuvent aller.
Ce qui est intéressant, c'est de définir la direction. Le cap, c'est comme on dit, tu embarques pas sur un navire avec des matelots sans savoir où tu vas.
Ouais.
Bah voilà, tu définis un cap, une stratégie, produit ou service, peu importe. Une stratégie pour ton organisation. Et derrière, tu prends les décisions conjointement avec tes managers s'il y en a pour essayer de donner roadmap et faire des points réguliers comme. Pour voir comment est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est en train de dévier du cap, est-ce qu'on fait une correction, ou est-ce qu'on prend au contraire ce nouveau cap parce que les courants sont plus favorables. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que... J'ai l'impression que ce que tu décris, c'était un peu le cap des 30 salariés, mais qui arrivait à 40.
Ouais. Mais ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que c'est vrai qu'on était 35, ouais. et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, cet été, on était encore 35. Et pourtant, la boîte, ça n'avait rien à voir. Parce qu'en fait, on s'était complètement structuré à l'intérieur, etc. Et le nombre de personnes... en fait, tu peux très bien arriver à un grand nombre de personnes, mais tu ne peux pas le dépasser. Parce qu'après, il faut réorganiser tout le travail de ces gens-là, recadrer les choses, pour que ce groupe soit capable d'accueillir d'autres personnes. Ouais. Et donc, tu peux avoir 40 personnes, mais en fait, ils s'apprêtent à franchir une marche. Tu peux avoir 40 personnes, on vient d'y arriver. Donc, c'est toujours 40 personnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as 40 personnes, et là, nous, on est à 40 personnes, et l'objectif... d'ici la fin de l'année 2020, c'est d'être capable de faire travailler 60 personnes. Et quand je dis, on a un mot qui s'appelle « se mettre nos baffes et se rendre capable », l'année dernière, on s'est mis nos baffes, de dire « on ne sait pas faire travailler 35 personnes, donc on arrête ». Donc on est redescendu, pas énormément en dessous, mais à 28. Donc en gros, c'est, on n'a pas viré les gens, c'est juste des gens qui étaient en stage, de fin d'études, qu'on espérait peut-être prendre en alternance, qui étaient un peu les juniors. On s'est dit « on n'est pas capable de les faire travailler, donc ne nous engageons pas avec eux. Et en fait, pendant un an, le nombre de personnes n'a pas augmenté, mais la maturité qu'on a en interne me met la chair de poule. Et aujourd'hui, on est prêt à passer de 40 à 60, mais on sait exactement où les gens arrivent et on les attend, les suivants. Mmh. Et donc là, on va recruter une dizaine de commerciaux, on va continuer à recruter sur des développeurs en interne, on va continuer à constituer l'équipe marketing, constituer l'équipe produit. Quand je dis produit, je dis bien sûr la tech, mais aussi ce qu'il y a autour. Les personnes qui sont là pour mettre en maturité les sujets, pour pas que le tech il se pose 30 000 questions qu'on a besoin de développer. Genre, on a tous les deux été développeurs, on sait que le niveau de spécification que tu as
clairement
change totalement ta vitesse de développement et la qualité de ce que tu fais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent des mecs bons dans une pièce en disant « bon, bah, ils sont tous bons, ça devrait sortir un truc bien ». Bah non, ça marche pas comme ça.
Ah, puis il y a même mieux, il y a ceux qui mettent des mecs bons dans une pièce, qui te disent « ok, moi je veux que vous construisiez, que vous construisiez cela
ouais. ».
Mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait faire pour l'entreprise.
Ouais, il faut avoir... après, ça, c'est du product management. Il faut passer par beaucoup de discovery. C'est-à-dire se dire, attends, j'ai fait un raisonnement, mais il est basé sur quelles hypothèses? Tiens, pour chacune de mes hypothèses, je vais essayer de la dérisquer. C'est-à-dire voir si elle est vraie ou pas. Je pense que c'est important. Et au début d'une start-up, on a tendance à aller beaucoup dans du build. C'est-à-dire on veut tout de suite construire, etc. Et il faut le faire. Donc, si vous êtes en train de le faire, les gars, faites-le. Par contre, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut reconsidérer, il faut remettre en cause. Sinon, le risque, si vous trouvez votre product market fit tout de suite, bah, tant mieux. Mais par contre, le risque, c'est de s'entêter. Et dans l'entrepreneuriat, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me suis entêté sur des trucs. Il y a des mecs qui m'ont dit, mais non, c'est une connerie. Puis moi, j'étais, mais non, je suis sûr que c'est beau. Et bah non. Il y a un moment que j'adore dans Matrice, c'est quand Neo, il arrive dans la salle de l'architecte. Et que l'architecte lui dit, bah non, en fait, la matrice que tu pensais réussir à décrire, Sion, etc., en fait, tout ça n'est qu'un autre système de sécurité qui fait que tu peux pas niquer, en fait. Et la première réaction qu'a Neo, c'est de dire, foutaise. Et l'architecte le regarde et dit, le déni est la plus anticipable des réactions humaines. J'adore cette phrase, parce que c'est vrai, et quand on doit accepter quelque chose qui nous contrarie, on passe toujours par du déni, c'est la courbe de deuil, quoi. On se prend toujours la baffe du déni, on commence à dire non, on peut se mettre en colère, etc. Mais voilà, ça commence toujours par du déni.
Le fameux biais cognitif qui nous fait pas accepter certaines choses, par connaître nos erreurs.
Ouais, mais je pense que c'est des réflexes d'autodéfense, en fait. Mais je pense que c'est le déni et l'entêtement... À la fois, alors c'est les mêmes qualités qui peuvent donner lieu à de l'ambition, à de la détermination, au goût de l'effort. Mais il faut faire attention quand on est entrepreneur à écouter vraiment et à se dire « Attends, c'est peut-être de la merde ce que je fais en fait. » Et moi j'ai remarqué, les entrepreneurs, plus ils ont d'expérience et plus quand ils communiquent avec quelqu'un, ils ne parlent pas. Enfin, c'est pas eux qui parlent, ils posent des questions en fait. Ils se mettent à poser des questions jusqu'à comprendre vraiment le truc. Et les entrepreneurs, on les remarque comme ça, c'est que quand ils voient une opportunité ou quelque chose, quand ils essaient de comprendre un problème, ils posent beaucoup de questions avant de commencer à parler. Et à la fois, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire, je pense, quand on est entrepreneur, mais à la fois, il faut aussi être un fonceur. Donc si vous êtes au début de votre projet, vous êtes en train de foncer, foncez quand même, parce qu'à un moment donné, il faut sortir quelque chose. Et on le dit aussi, il ne faut pas avoir peur aussi de... Et c'est peut-être un autre, une des plus grosses problématiques aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'au début, on veut vraiment préparer le bébé pour sa sortie.
Ça, il y a une phrase
que j'adore, c'est « si t'as pas honte de ton produit quand tu le sors, c'est que tu l'as sorti trop tard
ouais. ».
Donc voilà les gars, si vous avez honte de votre produit, c'est que c'est peut-être le moment de le... Mais que ça fonctionne déjà, parce que ça peut être tout cassé aussi, mais voilà, il faut aussi déterminer un certain niveau de qualité, mais il faut pas avoir peur de sortir un produit dont on a honte.
Ouais, c'est le fameux Sunrise, le calendrier qui a été racheté des millions ou des milliards, je sais plus, d'euros par Windows, enfin par Microsoft... Pardon. Par Microsoft, ça a commencé comme une liste de diffusion par email. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais tes événements qui te venaient dans un email au début de la semaine pour te donner ton calendrier, quoi.
Ouais, et toujours partir super simple, essayer de se dire, mais en fait, est-ce que... Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que souvent, le problème, c'est que ce qui coûte très cher dans le dev, c'est de réussir à connecter l'UX. C'est-à-dire faire une UX pour tout. Et franchement, envoyer des mails avec un bouton dans le mail où on peut dire, bah tiens, en fait, la moitié de mon UX, j'envoie des mails, en fait. Ou tiens, ça pop sur Slack et c'est sur Slack que je réponds. Bon, en fait, ça, c'est de l'or. Parce que tous les raccourcis comme ça, en mode, tiens, est-ce que je pourrais pas rendre le même service que celui que je veux rendre, mais en connectant entre eux des outils que j'ai pas besoin de développer. Et tiens, il va me manquer juste cette pièce d'intelligence, bah, il n'y a que ça que je fais. Et tiens, ça fonctionne ? Ok, non, je réajuste, ok, j'ai ma chaîne de valeur, maintenant je vais construire une belle UX autour. Mmh. Des fois, on se jette dans l'UX, et en fait, on n'arrête jamais parce qu'on n'est jamais assez fier de notre UX. Donc, pas avoir peur de...
évoluer trop vite.
Donc, ouais, s'appuyer sur des mails, s'appuyer sur des trucs extérieurs, aller faire du Zapier, du If This Then That. Il ne faut pas avoir peur de connecter le truc à l'arrache comme ça, à le lancer. Il y a une partie que vous n'arrivez pas à faire, faites-le à la main. Prenez les gens au téléphone.
Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi pour toi la plus grosse difficulté que tu as eu à affronter depuis que tu es entrepreneur ?
La plus grosse, je ne saurais pas dire.
Une des plus grosses.
Mais des, bah, au tout début de Blue Coders, déjà quand t'es tout petit, les autres ne te respectent pas vraiment. Et tu te rends compte que des boîtes qui sont très respectables peuvent chercher à t'écraser la gueule.
Ouais.
Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des boîtes qui, en finale par exemple, j'allais placer des développeurs chez eux, le mec me dit bah, « c'est moins cher, sinon je ne te le prends pas ». Il sait que t'es tout petit, tu ne peux, peux pas te passer de faire du bis, sinon t'es mort. Mmh. Le mec en abuse. Ou donc le début, c'est l'insignifiance pour tout le monde, c'est très très dur. Et puis l'incertitude. C'est-à-dire que moi je dis toujours, entreprendre, c'est comme conduire dans le brouillard. C'est-à-dire, on voit la ligne, je vois la route, elle est devant moi, je sais que je suis pas en train d'aller dans le ravin. Oui, mais par contre, je sais pas où est le panneau, je sais plus si je suis sur la bonne route, et je sais pas quand arrive le prochain virage. Voilà, donc ça c'est l'entreprise. Donc,
c'est un peu la métaphore de la vie aussi.
Ouais, c'est la métaphore de la vie, mais quand on est entrepreneur, on
finalement. Là, c'est une voiture avec plus de monde dedans, quoi.
Ouais, c'est voilà. Ça. Bah, après, on peut être tout seul aussi, ça, mmh. Y avoir le même sentiment. Donc la plus grosse épreuve, c'est au début quand le brouillard est très très proche et qu'on voit un mètre. Après, plus on avance et plus le brouillard se recule. Ça veut pas dire qu'on sait tout ce qui va se produire. Ça veut dire qu'on a un petit peu de marge. On a de la marge, on a de l'inertie, etc.
Mais ça, enfin, si, ce que tu dis, tu vois, c'est intéressant parce que même en tant que salarié, j'ai jamais pu m'empêcher de ne pas supporter de pas connaître la direction de l'entreprise, tu vois. C'est quelque chose, si j'étais dans une boîte où on me dit on va faire ça, mais on sait pas trop comment, voilà, le but c'est d'arriver à tant de milliers d'euros, truc, mais en fait, mais c'est quoi ton but ? Pourquoi tu veux me faire bosser ? Pourquoi est-ce que je perds mon temps à bosser pour toi, à part pour l'argent ? Et en fait, quand tu te mets dans une dynamique comme ça, pour moi, tu peux pas... Si t'as pas un cap à indiquer à tes salariés, tu peux pas aller attendre à ce que tes salariés pensent autrement ou à autre chose qu'au pognon, quoi.
Ouais, en fait, c'est que... Ce que tu dis, là, tu mets le doigt sur un truc. En fait, tu dis quelle est la plus grosse difficulté. En fait, je crois que... Alors, c'est probablement une difficulté que je vais me reprendre à différents paliers. Mm-hmm. Mais en fait, tu sais, au début, tu as énormément d'énergie, tu sais exactement ce que tu veux, tu lances la boîte, il y a des gens avec toi, ils travaillent directement avec le fondateur, ils sont énergisés à fond, il faut prouver qu'on existe, quoi. Ensuite, on fait venir des gens, c'est hyper euphorisant, limite, de faire l'entreprise qui démarre et tout. Et puis, en fait, on arrive à un genre de phase de maturité. C'est-à-dire, ben, en fait, on sait faire ce qu'on sait faire, il y a des clients qui sont là, on n'est pas trop en risque. Et en fait, on perd un peu le pourquoi, en fait, j'étais là. Et en fait, ça tient en fait qu'emmener 30 personnes avec soi, c'est pas du tout le même travail que d'emmener 2, 3, 5, 10, 15. Et je pense qu'emmener 100 personnes, c'est encore différent. Et il y a des boîtes, c'est impressionnant, des boîtes comme EY, Ernst & Young. Je sais même pas comment ils font pour avoir une culture d'entreprise aussi puissante, mm-hmm. avec des employés partout dans le monde. C'est assez incroyable. Voilà. Et en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, j'ai pris un coach en management. Cher Romain, tu es en train de lancer une offre qui est assez similaire à ça. Et en gros, il m'a dit, mais en fait, le rôle du CEO, c'est de poser un cadre dans lequel les gens... Et en fait, poser un cadre, ça veut dire impulser l'ambition, ça veut dire poser des règles, des valeurs, voilà. Et,
pour moi, c'est mettre tout le monde dans une pièce. En tout cas, quand tu as une taille comme là, tu peux te permettre de le faire. Et dire, bon, bah, les gars, ok, moi j'ai créé Blue Coders pour ça. Ma vision, c'est ça. Maintenant, on a déjà atteint cette première étape. On va où ? Vous voulez aller où avec moi ?
C'est exactement ça. C'est l'ADN de la boîte, en fait. C'est pourquoi la boîte existe et comment on. Et c'est quoi notre façon à nous de rendre le service ? Est-ce qu'on a développé un produit qui fait tout, on a une supériorité produit ? Est-ce que, en fait, nous, on fait des sandwichs dégueulasses, mais on te le fait le même partout sur la Terre ? Ou est-ce que nous, notre priorité, c'est l'intimité client ? Nous, notre priorité chez Bocoder, c'est l'intimité client. Ça veut dire la relation de confiance qu'on a avec les développeurs qu'on accompagne. C'est ça, le truc fondamental, c'est ça. Et après, on développe un produit, on fait des efforts à fond sur le produit, mais on sacrifiera jamais l'intimité client au profit d'autre chose. Et on travaille en permanence notre capacité à avoir une excellence opérationnelle. Et le fait d'être conscient de son propre positionnement, pouvoir le communiquer, ça va peut-être créer du turnover dans votre entreprise. Mais c'est un turnover qui est sain. C'est-à-dire que le mec se casse, mais en fait, il n'avait rien à faire là. Parce que ça ne lui allait pas. En fait, les valeurs, ce n'était pas les siennes. Et la finalité, nous, on a dû travailler sur la finalité. Permettre aux développeurs d'exploiter pleinement leur potentiel professionnel en s'épanouissant au travail. C'est pas hyper dur, mais j'ai mis 2 ans et demi avant de comprendre que c'était important de le poser. Et au début, on parlait de valeurs. Je disais, mais attends, ça, c'est des trucs pour les boîtes de marketing qui te mettent des valeurs sur un mur, c'est ça. Et ben, en fait, c'est important. C'est important. Alors, celui qui est trop et qui dit, alors on va poser nos valeurs, oui, peut-être qu'il grille des étapes. Mais par contre, l'ADN d'une entreprise, c'est indispensable. Et si ça crée du turnover, tant pis. Et il faut recruter aussi là-dessus. C'est-à-dire que c'est important de recruter sur des valeurs.
Puis tout à l'heure, tu parlais d'un cadre de règles et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est le meilleur moyen de fixer des règles. C'est-à-dire que si t'as un comportement qui est pas dans cette... qui rentre directement dans la ligne de ces valeurs, alors, je dis pas d'être des nazis du motto de la boîte, mais... parce qu'au contraire, je suis plutôt culture expand que culture fit. Je déteste ce terme de culture fit, dire qu'en général tu te retrouves avec une boîte où il y a 40 blancs dedans qui sont tous du même milieu social et qui viennent tous de la même ville et tout ça, ce que je trouve carrément dommage. Le culture expand va te permettre d'aller voir d'autres choses et de penser à d'autres choses, mais derrière, en fait, c'est t'as un mec qui fait des conneries, ça rentre pas dans la politique de la boîte, dans la valeur, on va dire, et c'est beaucoup plus simple de dire écoute, c'est comme ça que ça fonctionne. Si ça ne te va pas, soit tu pars, soit tu t'adaptes. Donc,
Mais en général, plus on définit ses valeurs, et plus les gens qui ne sont pas dedans ont tendance à s'en rendre compte d'eux-mêmes.
Ouais.
Donc, c'est un peu le turnover, un peu le corollaire d'un ADN bien figé. Donc, à mon avis, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes en train de caler votre ADN, il y a des gens qui vont partir. Et c'est probablement les gens que vous ne sentez pas vraiment dans le truc. Et vous ne savez pas pourquoi, eux non plus. Mais parce que c'est pas au clair avec eux. Peut-être qu'il y a un problème de positionnement, peut-être qu'il y a un problème de valeur. Et après, c'est aussi important qu'on a posé tout ce cadre, de réussir aussi à impliquer les gens sur la stratégie. C'est-à-dire de dire, voilà les gars, le cadre c'est ça, et j'ai tout défini comment on y va. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que les gens, il faut les mettre en mouvement. Et le management, c'est la capacité à mettre les gens en mouvement avec soi. Et dans l'entrepreneuriat, il faut réussir en permanence à manager, à mettre en mouvement les gens avec toi. Et là, ça va vraiment créer une... Et moi, je le vois depuis que j'étais accompagné au début de l'année par une personne qui m'a aidé là-dessus, mais on a réussi à recréer de la motivation dans l'entreprise. On a fait monter en compétences les managers là-dessus. C'est vraiment de la prise de conscience que maintenant on veut faire ce qu'on fait, enfin faire plus, faire mieux, parce que l'entrepreneuriat c'est faire mieux. Et on pourrait toujours s'arrêter en disant maintenant on va devenir la petite PME du coin. Donc on est 30, on s'arrête à 30, on sait bien le faire. Et ça peut être un projet de vie pour ses fondateurs, mais quand on a l'entrepreneuriat dans le sang et qu'on a envie de faire mieux en permanence, même quand on arrive à 30, même si ça change de job, que c'est différent, on a encore envie d'être celui qui est à la hauteur.
Ouais, et je tiens à préciser pour ceux qui pourraient penser autrement, c'est que je pense que quand tu dis ça, ça ne veut pas dire la recherche absolue du profit, quoi. C'est en gros, oui, du profit pour que la boîte vive, évidemment. On est là pour faire une entreprise, il faut faire de l'argent pour qu'elle tourne, hein, sinon tu ne peux pas payer tes salariés.
Sinon tu fais une association.
Voilà, sinon ça on est clair et net là-dessus. Mais par contre, ce n'est pas du profit juste pour faire du profit, quoi.
En tout cas, il ne faut pas être sur du profit court terme.
C'est ça,
c'est intelligent. Voilà, c'est ça. En fait, le profit court terme, c'est vraiment de la grosse boîte qui veut faire plaisir à ses actionnaires pour avoir l'action qui remonte le mois d'après. Et de toute façon, le CEO se fait virer tous les 9 mois sinon. Donc, il a intérêt à faire 3 trimestres jolis. Voilà. Je pense que, en fait, le profit, c'est... Moi, en fait, je crois beaucoup à... Alors, c'est peut-être un peu ésotérique, mais je crois beaucoup à une histoire d'énergie. Par exemple, nous, tous les ans, on fait, et c'était venu Romain, le Blue Birthday. Et on invite tous les gens qui sont les témoins de l'essor de Bocoder depuis le début. Et je me rappelle la première année qu'on l'a fait, on n'avait quasiment pas de clients. Et j'ai dit, je m'en fous, invitez tous vos potes, parce que je veux que les gens qui viennent se disent qu'on n'a pas forcément besoin d'eux, tellement on est beaucoup. Et en fait, c'est resté ce Blue Birthday, plutôt que ce soit la grande messe annuelle, machin. En fait, c'est resté le truc où on invite les gens, les clients qui sont cool, les devs avec qui on s'est super bien entendu, il y a eu des gros feats. Et en fait, je crois que le fait que tout le monde regarde l'entreprise en disant mais lui, eux, je trouve que la boîte est cool, j'ai envie que ça réussisse, en fait, ça crée un genre d'énergie qui fait que c'est inarrêtable. Les planètes s'alignent et on devient une fusée. Et je pense que c'est important de faire ça. Et en fait, c'est cette énergie projetée sur le chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires n'est qu'une projection orthogonale d'une forme de réussite qui est ailleurs.
Oulala.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le chiffre d'affaires, c'est que le voilà, c'est comme on fait des trucs très bien et que les gens nous font confiance, il se trouve qu'on fait aussi du chiffre d'affaires.
Exactement.
Mais le mec qui cherche à tout prix à faire du chiffre d'affaires, il va peut-être à un moment donné tirer sur la corde en faire plus, mais ça va s'essouffler vite. Parce que faire du chiffre d'affaires, ça nécessite du carburant, ça nécessite que les gens soient en automotivation, ça nécessite que les gens aient besoin de se reposer. Chez Blue Coders, à un moment donné, je voyais que les gens n'osaient pas poser leur congé, alors que je me suis dit, bah, c'est quand même fait pour se reposer. Du coup, on a mis en place, une fois par mois, tu as un congé que tu poses quand tu veux, au dernier moment si tu veux. Mais il ne se cumule pas.
Okay.
Donc pose-le, repose-toi maintenant si tu en as besoin, parce que si tu ne l'as pas posé ce mois-ci, le mois d'après, tu ne l'auras pas.
Ok, mais c'est en plus des congés traditionnels.
Voilà, c'est en plus de ce qu'on fait. Mais en fait, pourquoi ? Parce que et les gens ont besoin d'être bien, quoi. Et en plus, la fatigue, c'est contagieux. Et donc, quelqu'un qui est fatigué, qui tire sur la corde, c'est pas bon. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, un jour de travail, il est bien gentil, ce capitaliste. Mais en attendant, ça a vraiment changé les choses, ça a été hyper bien accueilli, et c'est déjà ça. Après, oui, puis, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux encore.
Sur l'année, ça fait quand même 12 jours de congé. Si tu les poses bien, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, ça fait 2 semaines, quoi.
Ouais, non, c'est...
Non, mais ça fait 2 semaines de congé pour une personne sur l'année. Et ouais. Puis, en plus, ton objectif, c'est clairement de se dire, bah, j'ai mon jour de congé là perdu. Le but, c'est que je le compile avec mes congés qui, eux, sont là pour l'année, quoi. Ouais. Donc, voilà, en gros, c'est de pousser les gens à prendre leur congé.
Ouais, et à un moment donné, c'est un constat où on m'a remonté que les gens étaient fatigués et je savais pas trop comment aborder les choses. Parce que, bon, je me suis dit, putain, c'est de ma faute, je fais trop travailler. Et pourtant, on fait pas d'heure sup ici, tu vois. Mmh. Mais par contre, je m'étais grave remise en question. Et en fait, je crois que cette fatigue, je l'avais sentie. Et on a discuté avec les managers, on s'est dit, mais en fait, on pourrait donner plus de congés aux gens, rajouter un RTT, etc. Mais en fait, non, posons un jour de congé, je suis obligé de le prendre, en fait. Et ça a été très bien compris. Tout le monde le pose. Il n'y a pas de problème.
Non, bah,
c'est cool. Et c'est super.
C'est cool, c'est envoyer en même temps un message, et en même temps ça détend tes employés. Non, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, moi, tu parlais que tu avais pris un espèce de coaching en management.
Ouais.
Qu'est-ce qui a motivé cette démarche ?
Parce que j'avais les joues tellement rouges à force de mettre des baffes tout seul que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'en sortir tout seul, en fait.
Okay.
Et je me suis rendu compte que j'arrivais dans une phase de maturité où on avait besoin de trouver du sens. Trouver du sens, ça veut dire comprendre quels sont les bénéfices pour Blue Coders, pour ses collaborateurs, pour les développeurs qu'on accompagne, pour les entreprises qu'on accompagne. Et en fait, on avait besoin de cadrer ce sens. On avait besoin vraiment de trouver du sens. Et moi, en fait, moi-même, je traversais cette perte d'énergie, en fait. Parce que finalement, on a posé un cap, il fallait construire une entreprise qui cherche à faire ça. Bah, une fois qu'on y arrive, en fait, du coup... où est-ce qu'on trouve la motivation de la suite, puisqu'on a déjà réussi ce qu'on voulait.
Mmh.
Et donc ça nécessite de se reposer, de repartir en projet, et d'inclure les gens dans ce projet, en cadrant l'action, en impliquant sur la stratégie. Tout le monde, donc on l'a fait lors d'un séminaire, hein, je ne savais pas le faire, je me suis préparé, le coach en management m'a aidé à préparer le séminaire, on a essayé de faire tomber des propositions, essayer de faire une matrice d'impact pour les propositions en disant, bah, tiens, ça, ça peut être super, mais ça coûte très cher, donc est-ce qu'on peut le faire tout de suite ? On a essayé de prioriser comme ça. Et aujourd'hui, cette liste de trucs, c'est y a pas que ça, hein, mais ça fait partie intégrante de ma roadmap. Parce que les idées qui sont sorties, globalement, c'est exactement ce qu'on doit faire. Alors après, dans quel ordre, avec quels moyens, tout ça, c'est à moi d'arbitrer aussi les choses. Mais par contre,
tu vas choisir la stratégie des points qu'on t'a donné. Quoi.
Voilà, c'est impliqué sur la stratégie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui en ai la responsabilité. Si je pars sur un mauvais truc, c'est une connerie. Donc... voilà, je pense que moi, la stratégie que je définis, c'est vraiment d'être bien recentré sur l'accompagnement de développeurs et d'essayer de faire ça mieux. Mieux, plus tranquillement, en ayant moins l'impression en interne. Tiens, est-ce qu'on arriverait à tous se détendre et à faire le même résultat ? Voilà. Et ben là, on se prépare peut-être à savoir accueillir plus de personnes. Voilà.
Très intéressant. Et... petite question, qu'est-ce que du coup pour moi la question qui suit, ça va être Quel conseil tu donnerais à une personne, alors t'en as déjà donné beaucoup, à une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, là, qui veut monter sa boîte?
Je pense que je lui dirais déjà bravo, parce que je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs. C'est-à-dire que, enfin, si on regarde les choses clairement, aujourd'hui, ceux qui font travailler les autres, c'est-à-dire ceux qui créent l'emploi, etc., on a besoin d'entrepreneurs. Alors, on n'a pas besoin que tout le monde soit entrepreneur. Il ne faut pas que tout le monde soit entrepreneur. Mais par contre, déjà, avoir envie d'être entrepreneur, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire réussir à identifier soi-même un problème sur lequel on pense qu'on va pouvoir réussir à créer de la valeur. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut être entrepreneur? Je dirais que c'est une super aventure, c'est un travail super intéressant. Je pense qu'il ne faut surtout pas le faire pour l'argent, ou sinon, peut-être pas tout de suite. Je vois beaucoup de personnes qui entreprennent directement en sortie d'études. Je pense que c'est une bonne chose, mais par contre, il ne faut pas s'entêter, parce qu'on risque de faire beaucoup plus d'erreurs que quelqu'un qui aurait déjà 10 ans d'expérience dans le milieu pro. Il faut écouter les conseils des gens qui travaillent déjà dans le même secteur. Ce que j'entends par là, ça veut dire que des fois, moi, il y a un truc que j'entends qui m'horripile un peu, c'est de dire « Alors, pour entreprendre, il faut que j'ai une bonne idée. » Bah, alors oui, il va falloir en avoir plusieurs des bonnes idées, mais par contre, celui qui dit « Et en plus, j'ai trouvé un truc pour entreprendre », il n'y a personne qui fait ça. Attention, danger. Il n'y a personne qui fait ça, c'est peut-être que ce n'est pas vraiment un problème et que personne n'est prêt à payer. Donc, après, je ne veux pas casser des rêves en disant ça, mais je pense que c'est important. Et surtout, ce que je veux, c'est casser le mythe de l'idée. Parce qu'il n'y a personne qui entreprend sur des idées. Et on peut se dire, Facebook, c'est une super idée. Bah non, parce qu'il y avait déjà MySpace, il y a déjà MSN. Bah en fait, Messenger, qu'est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? Bah, moi, je ne sais pas, j'avais 12 ans, j'étais sur MSN. Je ne vois pas trop les features en plus. Oui, il y a des stickers, mais moi, j'avais les Wiz pour secouer la fenêtre de l'autre en face. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter avec le mythe de la bonne idée. Il n'y a pas de bonne idée, il y a juste envie de faire mieux. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? En fait, je pense qu'il faut être clair avec soi-même là-dessus. Et puis, je pense qu'il faut clairement définir aussi la façon d'entreprendre. C'est-à-dire, est-ce que ce que je veux, c'est être à la tête d'une entreprise de plusieurs personnes? Parce que mon travail va changer. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est un peu le caméléon. C'est-à-dire que son but, c'est d'être à la hauteur. Et comme c'est lui qui reste le chef de l'entreprise, enfin, il peut décider de plus l'être, mais après à voir, il faut avoir conscience de la direction qu'on prend. Est-ce que la direction que je prends va m'emmener dans un style de vie qui m'intéresse? Est-ce que ça va m'intéresser vraiment de gérer une entreprise? Alors peut-être on va se dire, bah non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'entreprendre seul, ou de développer un truc en parallèle de mon travail, ou bien d'être freelance, voilà. Donc, en fait, entreprendre, pour moi, ça veut dire avoir envie de faire mieux. Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Et arrêter avec le mythe de la bonne idée. Ça, je pense que ça fait beaucoup de mal, ce mythe de la bonne idée. Et il y a des très, très bonnes idées. Hein. Mais l'idée que personne n'a encore eue, essayez de poser un nom de domaine. Vous allez voir qu'ils ont déjà beaucoup choisi. Il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont eu des bonnes idées.
Le fameux choisi nom de domaine.
Et j'ai même trouvé un site. Je ne connais plus le nom, mais je le retrouve. On pourra le mettre sous le podcast. C'est un site qui référence des idées, qui sont des supers idées, et qui attendent des entrepreneurs pour les faire.
Ouais. Moi aussi, j'avais connu ce site, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle.
Donc, ce n'est pas un problème d'idée, c'est un problème d'exécution. En fait, il peut y avoir trois personnes qui ont la même idée, et c'est pour ça que le chef de l'entreprise, on se bat des fois pour être le CEO. Bah, EO, I, ça veut dire exécutive, celui qui exécute. Et la même idée, ça va donner autant d'entreprises différentes qu'il y aurait pu avoir d'entrepreneurs différents sur cette idée. Ouais. Donc, ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas du tout l'idée, c'est l'exécution de l'idée.
Et c'est ce qui rejoint un point que je dis souvent à beaucoup de gens et que vous entendrez partout, n'aie pas peur de parler de ton idée. De toute façon, si tu as peur de te parler de ton idée parce que tu as peur qu'on te la pique, c'est que tu vas passer à côté d'une critique constructive, tu vas pas avancer comme il faut, tu ne présenteras jamais ton produit dans les temps parce que justement tu auras peur que quelqu'un te le pique parce qu'il sera pas assez prêt, donc tu vas y aller. Les gens, les entrepreneurs, tout ça, les gens ont la flemme, ils vont pas aller vous piquer vos idées pour...
Ça nécessite tellement d'efforts de développer une entreprise que les idées, c'est presque le truc gratuit. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez développé un super algorithme, vous avez déjà bien avancé sur un truc, évitez de le balancer au premier venu. Ça, c'est vrai.
Tu le gardes pour toi, tu parles de ton idée.
Mais par contre, le business model, le vrai problème que ça résout et votre idée pour le résoudre, ça, vous pouvez en parler à tout le monde parce qu'il va falloir tellement se donner dans l'exécution pour réussir à s'en sortir avec la résolution de ce problème, que les gens qui...
Ça te fera de la pub.
Enfin, sinon, il y a des super gars qui arrivent et qui prennent des bonnes idées et qui trouvent tout de suite les moyens de les développer incroyablement. Mais ça, ça se saurait. Donc, ça n'existe pas. Parler à fond des idées, et je veux revenir sur un truc là-dessus, c'est aussi pourquoi il faut absolument parler de ces idées. Parce que c'est justement les gens à qui on va parler de ces idées qui vont vous appeler, qui vont peut-être vous donner les moyens de les développer. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un monde qui vole des idées. On est dans un monde où on est très content d'avoir trouvé un mec qui a une meilleure idée, qui a envie de faire mieux quelque chose, et on va le financer. Mais aujourd'hui, quand une grande entreprise voit un petit gars avec une idée, ils ne cherchent pas spécialement à lui piquer son idée. Ils se disent « Bon, ouais, très bien, on va te mettre dans notre incubateur. » Voilà. Et donc, il faut parler de ces idées, et personne ne va voler les idées. Et quand bien même ce serait le cas, que le meilleur exécutif gagne.
Ouais. Après, on ne vous dit pas de ne pas faire attention, très évidemment, mais il faut toujours faire attention, il y a des charlatans partout. Mais voilà, en tout cas, parler de votre idée, on est toujours, enfin, ça fera toujours une pub de toute façon qui est bonne. Moi, j'étais choqué, je travaillais dans une start-up, et à chaque fois que j'allais dans des meet-up ou autre, et que je parlais aux gens, que je disais le nom de cette start-up, personne ne la connaissait. C'est une start-up qui avait levé des millions d'euros, personne ne la connaissait. Alors, dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes très mauvais en marketing et en image, ce qui, je pense, était le cas. Soit vous êtes une entreprise ultra secrète comme Palantir, qui travaillait sur des sujets sensibles avec des gouvernements un peu et avec des gouvernements au pluriel un peu chelous et d'autres un peu moins, pour peu qu'il y ait des gouvernements qui soient pas chelous, et vous faites des millions d'euros, mais c'est autre chose. Donc parlez de vos idées et de toute façon, comme je vous dis, la pub sera toujours bonne. Je veux dire, et de toute façon, enfin. Sans pousser, alors attention, moi je suis contre le truc, l'important c'est qu'on parle de moi, peu importe si on parle de moi en bien ou en mal, évidemment c'est mieux qu'on parle de vous en bien, mais en tout cas ça veut tout dire cette phrase, c'est que si une idée elle est là, si elle est dehors, en général, de toute façon, ça vous rapporte quelque chose.
Un jour après, pour cette petite histoire, il faut faire attention à qui on le dit aussi. Moi au tout début de Blue Coders, il y a deux gars qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, on est en train de faire un système qui fait des tests pour du recrutement ». Et les mecs, je leur ai dit, bah, les gars, je vais être sympa avec vous. Le problème dans le recrutement, ce n'est pas les tests, c'est le sourcing. C'est être capable d'identifier les personnes qui sont susceptibles de changer d'emploi. Et ce n'est pas de savoir s'ils sont bons. Ça vient encore après. Mais la plus grosse valeur, c'est de savoir qui ils sont. 6 mois après, ils levaient 1,5 million d'euros pour faire exactement ça. Donc voilà. Après, il faut faire attention à qui on le dit. Si vous le dites justement à quelqu'un qui est en train d'essayer d'avoir un projet là-dessus, bah, peut-être soyez discret. Par contre, après, il faut se trouver des mentors. Et d'ailleurs, ça, c'est peut-être un des meilleurs conseils que je pourrais donner à un entrepreneur. Trouver des mentors.
Comment tu trouves des mentors ?
Tu les contactes. Il ne faut pas avoir peur du lien de mentoring, du lien de coaching. Nous, chez Blue Coders, les personnes qui aident les développeurs à décrocher un job, à faire un plan de carrière, à faire un bilan de carrière, etc., on les appelle des coachs. Pourquoi ? Parce que moi, je crois beaucoup au coaching, parce que ça m'a permis d'évoluer plus vite. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un coach en management. Donc, j'ai payé un mec pour qu'il vienne et qu'il me mette des baffes.
Ça a duré combien de temps ?
C'est encore d'actualité. Hein. Ça a commencé en... Je l'avais rencontré à l'été 2018. Il quittait son entreprise et il allait se mettre à son compte. Et après, en mars, je me suis dit, mais en fait, j'avais pas compris quand il m'avait proposé son offre que c'est ça dont j'avais besoin. Et je me suis pris tellement de baffes en 2018... que début de 2019, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être lui qu'il faut que j'appelle. Et en plus, il avait déjà son planning blindé tellement... c'est hyper utile. Et le coaching, moi, je dis... En fait, le coaching, c'est l'art d'être avec plus contre. Parce que c'est quelqu'un qui va casser des frontières dans notre cerveau. Il va nous aider à sortir de notre déni, à faire nos courbes de deuil, à accepter la réalité. Et en fait, il ne va pas nous faire faire des choses qu'on ne sera pas capable de faire nous-mêmes. Il va juste... nous permettre de le faire plus vite et d'accéder plus vite à nos objectifs. Par contre, voilà, il faut être clair, il ne faut pas avoir peur de se mettre un peu à nu. Voilà. Mais par contre, ça fait monter très vite. Alors, pas le faire avec le premier venu, hein. Mais par contre, quand vous sentez qu'il y a quelque chose, que ça vous intéresse, il ne faut même pas hésiter à le dire. Tiens, j'aimerais que ce soit mon mentor, là-dessus. Alors, des fois, on peut avoir plusieurs mentors. Moi, sur de la finance, sur du dev, sur de... Voilà. Donc, un mentor, on peut avoir plusieurs mentors en même temps. Souvent, les grands penseurs ont un seul mentor. Ou sinon, ils ont un mentor pendant un moment, puis un autre. Mais souvent, on se confronte à une problématique. À un moment donné, on a un mentor. Le mentor est très temporel. On ne garde pas le... Enfin, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression que je vais avoir le même mentor toute ma vie. Par contre, pendant un an, j'ai besoin d'avoir un mentor là-dessus. Et puis après, là-dessus. Et c'est important. Et moi, les relations de mentoring m'ont beaucoup aidé. à avancer plus vite et à apprendre.
Et ça rejoint une constatation que j'ai faite récemment. Je pense que c'est plus important de connaître ses points faibles que ses points forts. C'est-à-dire que il est beaucoup plus important de savoir reconnaître quand tu sais pas faire quelque chose et de te dire, bon bah ça, écoute, je suis mauvais là-dessus, je vais l'outsourcer.
Ouais.
Je vais le donner à quelqu'un d'autre, je vais le confier à quelqu'un d'autre, je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi, plutôt que de s'entêter à faire un truc qu'on maîtrise pas du tout. D'autres gens vous le formuleraient en disant travaillez vos points forts. Oui, travaillez vos points forts, mais en fait, c'est savoir, pour travailler tes points forts, il faut savoir reconnaître tes points faibles et surtout les mettre de côté et ne pas insister dessus parce que ça sert à rien.
Il y a une histoire qu'on m'avait racontée un jour qui m'avait beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui a super bien réussi et à qui on te dit mais comment t'as fait pour réussir ? Et la personne dit bah, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai pris les bons choix. Et puis on lui dit ah, d'accord, mais comment on fait pour prendre les bons choix dans la vie ? Il dit bah, ça, c'est l'expérience. Ah bon, mais comment on fait pour prendre de l'expérience ? Les mauvais choix, les mauvaises décisions. Voilà, je pense que ça résume hyper bien le truc, et je crois que les gens qui ont envie d'aller vite, ils cherchent à se prendre leur claque vite. Parce que, on le dit des fois, et je pense que ça illustre bien tout ça, mais il faut comprendre ce qui est derrière aussi, c'est échouer vite. Ça peut dire d'échouer vite, ça veut dire se prendre ses claques vite. Donc, il faut savoir de quoi on a envie d'être capable, il faut s'en rendre capable, et pour s'en rendre capable, c'est important d'accepter ses erreurs et de les chercher. Et on est à la recherche de l'échec, on l'accepte parce qu'il nous sert à quelque chose. Donc, le renions pas, quoi.
On va bientôt être à la fin.
Déjà.
Ouais. petite question, deux petites questions supplémentaires. Et après, on va se quitter. Est-ce que tu as un livre à recommander que tu lis en ce moment ou qui a changé ta vision des choses ou autre ? Je le mettrai en description dans le podcast.
Ouais, le livre que j'ai lu qui m'a donné envie, je crois d'ailleurs, du management, etc., ça s'appelle Optimiser votre équipe. C'est un gars qui lançait sa boîte, qui m'a parlé de ce livre, Optimiser votre équipe. C'est l'histoire d'une nouvelle CEO qui est lâchée dans une entreprise, qui a tout pour réussir, mais qui ne réussit pas. Et elle arrive à réaligner les choses avec les gens, et ça m'a énormément intéressé.
D'accord. Tu l'as lu alors que tu étais salarié, ça t'a donné envie?
Non, je l'ai lu début 2019.
Début 2019.
Je l'ai lu et j'en suis sorti, j'ai dit ok, il me faut un coach en management, j'ai pas compris.
Ok, d'accord.
Ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses.
Optimiser votre équipe.
Et je crois que ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est que ça m'a fait comprendre que les gens, en fait, savent travailler en équipe. Et une équipe, c'est un ensemble de personnes, c'est un groupe de personnes qui connaissent les faiblesses les uns des autres. Et en fait, ce qui fait qu'on a un super groupe de personnes, c'est qu'on connaît les faiblesses des gens, et en fait, on les utilise pas. Et c'est ça, la confiance.
Et une équipe, c'est 3 à 10 personnes, je le rappelle. Au-delà, on perd en efficacité. En dessous, c'est pas une équipe. Le chiffre idéal, c'est 7. C'est un chiffre magique, c'est pas pour rien. Ok, merci pour ça. Je le mettrai en description, comme je l'ai dit. Dernière question... J'aime bien poser cette question. T'as une citation favorite ?
Non, j'ai pas de citation favorite. Je pense que l'histoire... Enfin, peut-être ma citation favorite,
c'est... T'en as dit déjà pas mal dans ce podcast, donc...
Je pense que ma citation favorite, je vais reciter celle de Matrix. Celle où le Neo rentre et qui dit « Non, c'est pas possible. » Et le mec lui dit bah, « Le déni est la plus anticipable des réactions humaines. Ouais. » Donc, face à ses erreurs, face aux difficultés... Voilà. On est toujours tous dans le déni. Hein. Et le pire, c'est que le déni, ça crée de l'émotion et que l'émotion rend stupide. Et donc, c'est ça qui est difficile. Donc, voilà. Oubliez jamais que le déni est la plus anticipable des réactions humaines. Donc, on y sera souvent, puisque toute acceptation commence par du déni. Et donc, quand on sait reconnaître son propre déni, on avance beaucoup plus vite, je crois.
D'accord. Bah, écoute, Christophe, merci.
Merci Romain.
C'est très intéressant. Et puis on se retrouvera bientôt. J'organise souvent des événements avec Christophe. Donc vous pourrez le rencontrer éventuellement lors d'un des meet-up que j'organise. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et salut les loulous. Ciao.